Je suis très contente de présenter Michela Marzano, qui est italienne, mais qui est aussi française, pourrait-on dire, puisqu'elle circule, entre l'Italie et la France, entre un poste de professeur des universités à Paris 5, et puis elle est députée au Parlement italien depuis 2013, donc un parcours, je dirais, assez atypique et qui défie finalement les identités, à la fois françaises et italiennes, mais aussi les identités professionnelles. Donc, elle est là pour nous parler de tout ce que je sais de l'amour, que j'ai eu un grand plaisir à lire. C'est peut-être un livre qui tranche, bien évidemment, avec ces livres dont on peut dire au départ qu'ils étaient davantage dans le registre du discours philosophique, mais je crois qu'il y a, quelque chose de la philosophia dans ce livre, de l'amour du savoir, que finalement vous inversez de manière sceptique en savoir de l'amour, un savoir de l'amour au jeu, qui finalement est dans le registre d'une affirmation du sujet, mais d'une affirmation toujours, je dirais, modérée, complexe, de cette figure du sujet qu'on pouvait déjà trouver dans vos précédents livres, déjà dans un livre comme « Je consens, donc je suis », qui est un livre que j'avais beaucoup apprécié, où justement vous déconstruisiez un peu cette figure du jeu dans le discours philosophique et autour de la question du consentement. Bien évidemment, sur cette question de l'autobiographie, il y a déjà eu Légère comme un papillon chez Grasset, et c'est une manière, je crois, vraiment de revisiter le jeu du philosophe, bien sûr, d'une toute autre manière que celle de Descartes. Et en plus, quand on est une femme, et je crois que le fait qu'à un moment dans le texte, vous intitulez l'un de vos chapitres « Folle et capricieuse », c'est assez intéressant parce que c'est une manière aussi de renvoyer un clin d'œil à la manière dont on positionne aussi généralement les femmes. Et je trouve que c'est un livre très singulier, mais en même temps, vous dites quelque chose d'universel sur l'amour. La première chose que je trouve vous dites, c'est que l'amour, ça arrive un jour, mais que d'une certaine manière, il faut y croire. C'est cette image du prince charmant, mais en même temps, on est toujours déçu et finalement, ça n'arrive jamais de cette manière-là. Et donc, dans un deuxième temps, ce qui m'a plu, c'est que finalement, vous partez sur une vision, je dirais, non romantique de l'amour, parce qu'après tout, les contes de fées, les romans d'amour, dans la réalité, ça ne se passe jamais de cette manière-là. Et vous montrez plutôt que l'amour, c'est comme la vie. C'est comme la vie, mais à condition d'avoir une vision de la vie à travers tous ces différents petits moments. J'aime beaucoup quand vous dites que l'amour est fait d'une multitude de petits riens, d'une certaine manière comme la vie. Et ça, c'est bien une manière d'affirmer aussi une philosophie qui est une philosophie justement de la pluralité des rencontres. Et je crois que là-dessus, d'ailleurs, vous montrez bien tout ce qui est du registre des contradictions de l'amour. Et j'ai beaucoup aimé la référence à Lacan, parce qu'elle montre bien ce domaine des contradictions. Aimer, c'est donner quelque chose qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Hein, je crois que ça, c'est une manière particulièrement intéressante de voir l'amour et de voir toujours ce qu'il y a de pair, de contradictoire et d'impossible, finalement, dans l'amour. Et vraiment, j'insisterai sur le fait que c'est vraiment un livre sur la vérité du jeu. Et ce qui m'a beaucoup intéressée, ayant travaillé un moment sur les questions d'éthique du care, enfin d'éthique du soin, de maternité, j'ai beaucoup aimé aussi la fin. Sur l'amour d'une mère et la manière dont vous revenez sur l'image souvent accolée à la femme de la mère et sur ce qui est du coup pour vous, dites-vous, une énigme. Qu'est-ce que c'est finalement que d'aimer ses propres enfants? Et du coup, ça m'a renvoyé aussi au début et au moment où vous dites, je trouve fort, fort justement, comment dès lors raconter l'expérience de l'amour? Et comment ne pas être conditionné par l'amour qu'on a reçu ou pas reçu lorsqu'on était enfant. Toute cette question des chaînes de l'amour, des mémoires de l'amour, de ce qu'on a reçu, de ce qu'on n'a pas reçu, de ce qu'on a mal reçu. Et ça, c'est vraiment aussi une question fondamentale sur l'amour. Donc voilà, j'espère que vous allez nous raconter plein de choses sur le livre. Et donc voilà, je crois que tout le monde est là pour vous écouter.
Non, mais je vous remercie vraiment, c'est une joie. Donc un petit merci, enfin un petit grand merci à Stéphane qui a beaucoup insisté, il faut dire, parce que moi je ne voulais pas tellement venir, alors je vous assure, pas du tout parce que je ne voulais pas venir à Bordeaux. J'étais en train de le dire à Fabienne, en fait j'étais venue ici il y a quelques années, c'était en 2007, et depuis je voulais revenir, et puis bon, la vie étant un peu compliquée. Mais là, ma vie est devenue encore plus compliquée parce qu'il y a toujours, enfin, les pires ne terminent jamais. Enfin, on a toujours le sentiment que ça peut aller pire. J'espère avoir touché les fonds parce que pire que ça, ça ne peut plus aller dans les genres, dans les sens de frénésie. Parce qu'effectivement, depuis que j'étais élue au Parlement italien, tout en enseignant à Paris, j'ai le sentiment que je passe mon temps dans les avions, dans les trains, dans le déplacement, et puis. Ça crée un peu de confusion parce que non seulement je suis constamment entre deux langues, l'italien et le français, mais je suis aussi entre deux domaines différents parce que c'est une chose quand je suis avec mes étudiants et que voilà, je leur enseigne, je fais cours, ce n'est une autre quand je suis au Parlement où on ne fait pas du tout cours, on se retrouve à devoir aborder des questions compliquées. Et puis, bon, je sais qu'en France c'est compliqué, mais je vous assure qu'en Italie, moi j'ai les a tendance à croire que c'est encore plus compliqué, en dépit du fait que nous avons Renzi, d'accord, c'est très bien, mais enfin, voilà. Mais je ne vais pas du tout aujourd'hui aborder les questions politiques. J'étais ravie aussi des... Moi, en fait, je vous dis tout de suite, je n'ai pas préparé une conférence, parce que, peut-être parce que je suis tout le temps en train de faire des déplacements, j'ai pensé que ça aurait été un dialogue.
Oui,
alors, non, mais je pense être capable de parler de mon livre. Alors, attendez, voilà, c'est là. Mais c'est vrai que quand j'ai vu Fabienne, d'abord, je ne l'ai pas reconnue tout de suite. En fait, on s'est connu, mais vous voyez l'état dans lequel je suis. D'ailleurs, folle et capricieuse, c'est moi. Hein. Ce n'est pas du tout pour jouer avec les stéréotypes. Je me considère être tout à fait capricieuse et tout à fait folle. Donc, mais j'assume. Je l'ai déjà assumé dans les gères comme un papillon. Je l'assume même avec mes étudiants. Parce que ça, c'est quelque chose... Alors, vous dites comment ? Oui, j'ai changé façon de faire philosophie, j'ai changé façon d'enseigner, et je m'assume beaucoup plus maintenant que jadis, après 20 ans de psychanalyse que je raconte justement dans les gères comme un papillon. Et je considère qu'à partir de mes propres faiblesses, qui sont d'ailleurs les faiblesses que nous avons tous, à partir du moment où on s'appuie sur ses propres faiblesses, on peut... Enfin, au moins c'est l'espoir que j'ai, on peut communiquer, on peut aborder les thèmes d'une façon légèrement différente, mais peut-être plus ancrée dans la réalité de tous les jours, plus ancrée dans la réalité aussi de l'humain. Or, évidemment, il y a un fil conducteur. Ceux qui connaissent ou qui ont lu quelques-uns de mes essais, disons, plus classiques, plus traditionnels, savent très bien que les thèmes de la fragilité est depuis toujours les thèmes que j'aborde dans mes essais, qu'il s'agisse du dictionnaire du corps que j'ai dirigé, à Géconsent dont je suis, l'éthique du corps et tout ça, la question de la fragilité, elle est toujours au centre. Évidemment, les registres de ces derniers livres qui s'inscrit dans la droite ligne de Légère comme un papillon est différent parce que c'est une écriture à la première personne. Et du coup, la question, la toute première question qui se pose est pour quelles raisons, je me la pose toute seule la question, pour quelles raisons ces changements d'écriture et pourquoi à un certain moment j'ai décidé de ne plus continuer avec une écriture entre guillemets classique en dépit de toutes les difficultés qu'on a aussi dans les milieux qui est les nôtres, parce que dans notre milieu académique, moi ça m'est arrivé, évidemment il y a des personnes avec qui il y a une entente et on comprend aussi qu'il y a des différentes façons de faire philosophie, mais il y a aussi une façon très classique d'enseigner la philosophie à l'intérieur de laquelle on ne peut pas bouger, et donc sortir des rails signifie trahir sa propre discipline. Mais ce n'est pas grave, c'est-à-dire c'est quelque chose que j'assume, et ne serait-ce que parce qu'à un certain moment, je me suis rendu compte qu'écrire des essais Moi, je continue à les appeler classiques. Après, il y a plusieurs façons de bousculer les genres, et donc on peut aussi écrire à la troisième personne d'une façon tout à fait novatrice. Mais j'ai considéré que pour moi, l'écriture à la troisième personne était une écriture qui était un peu étroite, c'est-à-dire que ça ne me permettait pas d'aller jusqu'au bout. Et notamment, en voulant aborder les thèmes de la souffrance et les thèmes de l'amour, je me suis dit que la meilleure façon, mais peut-être vous allez me contredire, je ne prétends pas du tout avoir la vérité, au contraire, c'était partir de moi, partir du jeu, repartir de ce que j'avais croisé, ce que j'avais souffert, ce que j'avais rencontré au fur et à mesure que les temps passaient, et après, avec les instruments de la philosophie d'une part et les instruments de la psychanalyse de l'autre, essayer de partir du jeu pour arriver au nous. D'ailleurs, dans ces livres, il y a un entrecroisement entre première personne, troisième personne du singulier et aussi les nous qui émergent de temps en temps, pour essayer de partir de ma propre expérience, mais en même temps, arriver aussi à généraliser pour essayer de créer une sorte d'aller-retour continu entre mon expérience à moi et l'expérience des autres. Mais alors là encore, j'ouvre une petite parenthèse et je la ferme. Je suis complètement fatiguée parce que hier, je suis rentrée de Rome en avion. Ce matin, j'ai pris un train. Ce soir, je rentre à Paris. Lundi, il faut que je recommence. Donc, je suis un tout petit peu, mais ça va. Enfin, vous allez être très gentils avec moi et vous n'allez pas me jeter des pierres, j'espère. Alors, donc, Légère comme un papillon. J'étais en train de terminer Légère comme un papillon, qui est un livre dans lequel je raconte l'expérience de ma souffrance personnelle qui s'est traduite par les biais d'un symptôme qui est le symptôme de l'anorexie. Mais je ne raconte pas nécessairement la question de l'anorexie en tant que symptôme. Ce qui m'intéressait, c'était raconter ce qu'il y a derrière. Et quand je dis ce qu'il y a derrière, signifie les rapports compliqués entre Michela petite et son père, Michela adulte et les devoirs être qui entre-temps j'avais eu tendance à introjecter, et donc toute la question être, paraître, être, devoir être, avec sur les, comme toile de fond la question de la perfection. Au fond, ce qui m'avait inconsciemment poussé à me retrancher derrière les symptômes de l'anorexie, ça avait été les rêves de pouvoir devenir exactement comme mon père aurait voulu que je sois. C'est-à-dire correspondre complètement à ses attentes, correspondre exactement à tout ce qu'il aurait voulu que je sois, indépendamment de ce que j'étais. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, j'insiste beaucoup sur les faits. Je suis folle et capricieuse. Quelque chose que jamais j'aurais pu dire jadis. Parce que pour pouvoir être acceptée, il fallait tout le temps correspondre à une certaine image, à une certaine idée. Moi, j'étais pendant longtemps l'incarnation de la petite fille parfaite qui fait tout à la perfection, justement pour correspondre aux attentes de son propre père. Alors, pour quelle raison je vous explique un peu les contextes de Légère comme un papillon? Parce que les livres sur l'amour naissent à la fin de ces livres, quand je me suis rendu compte que derrière la question de la souffrance et de l'anorexie, il y avait une demande d'amour. Il y avait encore la petite fille qui était en train de demander à son père de l'aimer exactement comme elle l'était, non pas de projeter encore sur elle une certaine image qui encore aujourd'hui continue. Mon père, s'il pense à cette époque de ma vie, il considère que c'était quand tu étais malade. Il ne considère pas que c'était un moment de vérité ou ce n'était pas une maladie, c'était aussi une maladie. D'ailleurs très grave, avec toute la souffrance qu'il y a dedans. Mais c'était surtout la volonté de dire « Papa, regarde-moi tel que je suis. Papa, aime-moi tel que je suis. » Et donc, à la fin de ces livres, je me suis rendu compte que finalement, les thèmes de l'amour étaient en train de s'imposer, mais qu'il ne fallait pas continuer dans ces récits-là. Il fallait trouver une autre façon de raconter et d'expliquer ce qui était l'amour. Et donc, j'ai mis un point à Légère comme un papillon et j'ai commencé à écrire tout ce que je sais de l'amour, pour essayer effectivement d'aborder directement la question de ces sentiments-là qui m'avaient mis en danger et qui en même temps, les mêmes, m'avaient permis peu à peu de sortir de la prison qui était devenue ma vie dans un certain moment particulier. Dans les deux cas, il y a aussi une constante, c'est-à-dire la question de la langue. Pendant une dizaine d'années, je n'ai plus écrit en italien. Moi, je suis arrivée en France en 1998. J'ai commencé une psychanalyse en français, qui est heureusement terminé. Heureusement, enfin, il n'y a pas très longtemps, mais enfin, je crois qu'au moins la tranche qu'elle devait être, enfin, elle s'est terminée. Et pendant 10 ans, je n'ai plus écrit en italien. C'est comme si il fallait que je me débarrasse de cette langue qui m'avait tenue prisonnière. J'ouvre et je ferme une petite parenthèse. Aujourd'hui, j'assume et je revendique presque mon accent très fort quand je parle en français. Chose, en revanche, que j'ai eu du mal à faire pendant longtemps quand j'avais essayé d'effacer toute trace de la langue maternelle. Et d'ailleurs, depuis quelques temps, mon accent est encore plus fort, comme si je m'étais donné la permission d'être imparfaite et de traîner avec moi. C'est quelque chose qui m'habite, qui m'a constituée, qui fait partie de mon identité. Donc, pendant 10 ans, l'effort a été effacer toute trace de l'italien, ne parler plus qu'en français, ne plus écrire qu'en français, au point que quand en 2009, parce que voilà, je vous ai dit, je suis arrivée en France en 98, je ne parlais pas français parce que j'étais plutôt anglophone, donc ça a été, à l'époque je disais que c'était pour cette raison que j'ai traîné cet accent, parce que j'avais commencé, j'avais 28 ans, à apprendre le français trop tard pour pouvoir ne pas avoir d'accent. Puis c'est un peu plus compliqué que ça, j'ai découvert par la suite. En tout cas, je n'ai pratiquement plus écrit en français, et j'ai en italien. Et quand en 2009, j'ai recommencé à écrire en italien, je me suis rendu compte que j'avais perdu ma langue maternelle. Et je faisais plein de gallicismes en écrivant, comme s'il y avait encore quelque chose que j'avais voulu faire taire. Légère comme un papillon a été écrit, je l'ai écrit en 2011. Il a été publié en italien en 2011 et en 2012 en français. Et ça a été pour moi la redécouverte de cette langue que pendant longtemps j'avais voulu taire. C'est-à-dire à partir du moment où j'avais enfin trouvé dans une autre langue les mots pour les dire, il fallait que ces mêmes mots soient redécouverts en italien et que je puisse raconter tout ça d'abord en italien. Donc j'ai écrit Légère comme un papillon en italien. Et il a été traduit, pas par moi, mais il a été traduit par Camille, qui est une excellente traductrice. Mais quand après j'ai vu la version de Légère comme un papillon en français, je me suis dit, oui, mais c'est pas comme ça que je l'aurais écrit en français. Parce que même si c'est traduit parfaitement, eh ben, y a une musique qui n'est pas là. Et donc, tout ça pour dire que j'ai fait quelque chose de différent dans tout ce que je sais sur l'amour, c'est-à-dire je l'ai écrit d'abord en italien. Il est paru à peu près il y a 13 ou 14 mois en italien. Et après, c'est moi-même qui je n'ai pas traduit, parce qu'on ne peut pas complètement traduire. C'est drôle parce que j'étais en train de dire, mais comment on dit traduire? Parce que j'avais en tête trahir. Oui, mais parce que c'est sûr. Ça. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on est dans une traduction littéraire, on est aussi dans une forme de trahison. Et donc, du coup, j'ai fait une version française qui ne correspond pas à la version italienne, dans le sens où il y a des parties qui ne sont plus présentes dans la version française, il y a des parties qui ont été rajoutées. Donc, il a été vraiment réécrit. Donc, c'est une autre version du même livre. Et quand j'ai dit la même version du même livre, signifie que je est toujours je, même si c'est je, Nicola, qui pense cette fois en français et pas en italien. Et puis Jacques, il est toujours Jacques, donc lui, peut-être, il n'a pas lu la version italienne, il a lu la version française. Et bah oui, il faut que toujours il y ait quelque chose de compliqué dans ma vie. Donc évidemment, il y a toujours quelque chose qui ne colle pas complètement à la vie. Bon, en tout cas, tout ça pour dire comment ça a été la genèse d'un point de vue linguistique. Or, maintenant, comment j'ai construit ces livres? Eh bien, je l'ai construit, il n'est pas écrit complètement à la première personne, comme Légère comme un papillon, mais il y a une alternance. C'est-à-dire, il y a des chapitres à la première personne, bon, à partir du premier chapitre, quand j'étais petite, je rêvais à l'amour, etc. Et je rêvais du prince charmant. Et j'essaie d'expliquer pour quelles raisons les rêves du prince charmant, peu à peu, s'est effrité avec la réalité, mais non pas simplement parce que les prince charmants n'existent pas. Ce qui m'intéressait, c'était essayer de montrer ce qu'il y a derrière l'idée du prince charmant, qu'il s'agisse d'une femme ou d'un homme. D'ailleurs, je dis toujours prince charmant ou princesse charmante, mais je vais y revenir. Et puis, il y a des chapitres, en revanche, à la troisième personne, où à partir d'un philosophe ou d'un psychanalyste, tout à l'heure, Fabienne a cité une phrase de Lacan sur laquelle je vais revenir, donc ça peut être Lacan, ça peut être Pascal, ça peut être Stendhal, je pars d'une citation particulière particulière d'un écrivain, d'un philosophe, d'un psychanalyste pour essayer de mettre en musique, c'est-à-dire de répartir du jeu, mais de pouvoir transposer aussi et essayer de faire en sorte de montrer qu'il y a une forme d'universalisation qui est possible. Or, maintenant, de quoi je parle? Parce que jusque-là, je suis restée sur la forme. Eh bien, je parle de l'amour à partir d'une déconstruction, c'est-à-dire ce que l'amour n'est pas, pour essayer par la suite de raconter et expliquer ce qu'est l'amour. Alors, qu'est-ce que l'amour n'est pas? L'amour, tout d'abord, ça ne peut pas être ce qui va nous permettre de remplir les vides que nous avons à l'intérieur de nous. Et c'est ça l'idée du prince charmant ou de la princesse charmante. Derrière cette image-là, il y a les rêves que nous partageons tous, quoi qu'on en dise et quoi qu'on les nie, parfois, surtout les hommes, mais pas uniquement, parce que je ne vais pas nous, tout de suite avoir contre les hommes qui sont là. Nous avons tous l'envie, les rêves, les besoins de rencontrer un jour celui ou celle qui va être capable ou qui pourrait être capable ou qui devrait être capable de remplir les vides que nous avons en nous. Alors, qu'est-ce que c'est les vides que nous avons en nous? Les vides que nous avons en nous est une partie de notre condition, une partie de la condition humaine. Il y a une très belle lettre où Camille Claudel, en écrivant à son frère, dit « Il y a toujours quelque chose d'absent qui me persécute ». Alors, moi, je pense que cette phrase-là de Camille Claudel est une des définitions les plus belles de la condition humaine, parce que nous avons tous en nous quelque chose d'absent qui nous persécute. Nous avons toujours en nous quelque chose qu'il faudrait avoir, qu'on n'arrive pas à avoir, qu'on voudrait avoir. Ce qui fait qu'après, à chaque fois qu'on croise quelqu'un et qu'on s'illusionne du fait que cette personne va pouvoir remplir ces vides-là et faire en sorte qu'on ne va plus avoir les sentiments qu'il y a quelque chose d'absent qui nous persécute, ça arrive tout le temps les moments où on va se dire ce n'est pas elle, ce n'est pas lui. Mais pas parce qu'elle ou lui ne sont pas capables ou ne sont pas à la hauteur. Parce qu'elle ou lui ne pourront jamais remplir ces vides-là qui n'est pas remplissable. Parce que les vides, ils font partie de nous, ils restent en nous et ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va pouvoir les remplir. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va pouvoir faire comme si on était dans les tout-plans. D'ailleurs, on retrouve les thèmes de Légère comme un papillon. Être dans la plénitude, c'est remplir de quelque chose pour ne plus entendre l'angoisse du manque. Donc, premier problème qu'on a. Le deuxième, derrière l'image ou l'idée du prince charmant ou de la princesse charmante, il y a l'idée qu'un jour, on va peut-être rencontrer quelqu'un qui va pouvoir nous réparer, c'est-à-dire réparer les blessures de notre vie, c'est-à-dire faire comme si c'est quelque chose que nous traînons, que nous avons, et là encore, c'est quelque chose que nous avons tous, parce que nous avons tous dû aborder la perte. À un certain moment dans les livres, j'ai dit tout commence par la perte, c'est-à-dire au départ, on perd, et on perd quoi? On perd l'amour fusionnel, on perd la fusion avec la mère, avec les pères, avec celle ou celui qui est en train de s'occuper de nous et avec qui nous établissons au départ un rapport symbiotique. Et donc tout démarre avec la perte, avec les détachements. À partir de là, c'est une fuite poursuite pour essayer de faire en sorte que cette perte-là n'ait jamais eu lieu. Bon, après, évidemment, et là, il y a la différence de chacun de nous, il peut y avoir des blessures plus ou moins profondes qu'on a connues, mais les mécanismes sont les mêmes. Rencontrer quelqu'un qui va faire en sorte que rien ne s'est produit, rencontrer quelqu'un qui va faire en sorte de réparer c'est quelque chose qui s'est cassé, trouver quelqu'un qui va nous aider à mettre ensemble les morceaux déconnectés de notre propre existence, là où en fait si on passe son temps à chercher celui ou celle qui va nous réparer, on ne se rend pas compte du fait que nous sommes les seuls qui pouvons mettre ensemble les morceaux de notre propre existence, et même pas pour toujours. J'ai dit tout à l'heure, j'ai fait presque 20 ans de psychanalyse, évidemment j'ai mis ensemble les différents morceaux de mon existence, mais en même temps je sais aussi pertinemment que je suis là avec du sparadrap et qu'il suffit de très peu pour que l'équilibre se casse à nouveau. Mais l'important, c'est vivre avec ça et savoir qu'il y a un équilibre qui ne dépend pas des autres et du regard des autres, mais qui dépend tout d'abord de nous. Ce n'est d'ailleurs qu'à partir de ce moment-là qu'on peut se rendre compte de l'existence des autres et on peut proposer à quelqu'un non pas de nous remplir, non pas de nous réparer, mais de traverser avec nous ce vide qui, en dépit de tout, reste à nous présent. Donc, j'essaye du coup d'expliquer tout ça en racontant un certain nombre d'éléments de ma vie, mais sans me mettre à nu, hein, parce qu'il y a une question que souvent on me pose, mais vous n'avez pas le sentiment de vous mettre à nu vis-à-vis des lecteurs. Et moi, à chaque fois, je réponds en disant non, parce que quelque part, je ne raconte rien de l'intimité entre moi et Jacques. D'ailleurs, objection opposée, mais en même temps qui arrive souvent, est « vous ne racontez rien de la sexualité ». Mais il ne s'agit pas de raconter tout. La vie entre moi et Jacques, ça nous concerne. Mais en revanche, j'ai besoin de raconter certaines choses pour pouvoir faire en sorte de montrer que je suis en train d'ouvrir une porte afin que les lecteurs puissent aussi, à leur tour, ouvrir la leur. Quelque part, le seul but de ces livres-là, c'est créer un aller-retour entre moi et les lecteurs. C'est-à-dire entre moi qui raconte certaines choses afin de pouvoir les expliquer par la suite, mais pour permettre à ceux qui sont en train de lire, de pouvoir ouvrir leur propre porte, s'identifier ou pas d'ailleurs, et par la suite procéder dans leur propre cheminement. Et donc essayer de voir à leur tour quel est le rapport qu'ils ont avec les vides, avec les plans, avec l'autre idéalisé, avec l'autre autre. Et ça me permet du coup de revenir sur la question de la phrase de Jacques Lacan, qui arrive à un certain moment pour essayer d'expliquer, en dépit du fait que c'est une phrase un peu compliquée, en tant que telle, presque mystérieuse, une partie de la nature de l'amour. Quand Jacques Lacan nous dit « aimer signifie donner quelque chose qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas », il n'est pas juste en train d'utiliser les mots n'importe comment. Il est en train en fait d'essayer de toucher au plus près la vérité de l'amour, qui consiste à chaque fois à essayer de donner à quelqu'un. Qu'est-ce qu'on essaie de donner? On essaie de donner ce qu'on voudrait recevoir, c'est-à-dire ce dont on a besoin. Mais si j'essaie de donner à quelqu'un que j'aime ce que je voudrais recevoir de lui parce que j'ai besoin de ça, cela veut dire que ce que je suis en train d'essayer de donner, je ne l'ai pas. Sauf que l'autre, étant autre par rapport à nous, fort probablement, ce qu'il voudrait recevoir, et donc ce qu'il est en train de nous donner, ne coïncide pas avec ce que nous sommes en train de lui donner sans l'avoir, et il est en train plutôt de nous donner ce qu'il n'a pas, à nous qui n'en voulons pas, parce que ce que nous voulons, c'est exactement ce que nous essayons de lui donner. Alors ça peut paraître un jeu, mais ça ne l'est pas. En fait, ça nous dit une très grande vérité qui permet aussi de relativiser, qui est un terme, moi, que j'aime pas du tout, parce que ça peut paraître péjoratif, mais ça nous permet de relativiser dans le sens positif du terme les incompréhensions qui font partie d'un rapport de couple, d'un rapport d'amour. Ce sont des incompréhensions intrinsèques au fait que dans une relation, nous sommes tout le temps en train d'essayer de nous mettre en rapport et en relation avec quelqu'un qui est systématiquement autre par rapport à ce que nous pensons qu'il soit, et il est tout le temps autre par rapport aussi à ce que lui, il pense être. Exactement comme je suis autre, non seulement par rapport à ce que Jacques pourrait attendre de Michela, mais je suis aussi autre par rapport à ce que Michela attendrait d'elle et qu'elle n'arrive évidemment jamais à pouvoir être, réaliser, faire, avoir, etc. Donc pouvoir expliquer du coup quelque chose qui est intrinsèque à chaque rapport d'amour et qui est cette étrangeté, l'inquiétante étrangeté d'ailleurs, dont nous a déjà parlé, expliqué à plusieurs reprises Freud, même si j'ai plutôt tendance à me référer aux écrits de Lacan quand il s'agit d'expliquer quelque chose qui relève des rapports intersubjectifs. Donc ça, c'est du coup toute une partie de ces livres. Raconter et expliquer. Et puis, il y a la deuxième partie, même si je l'aborde peut-être pas avec la même quantité de détails et profondeur, c'est-à-dire la question de la maternité, parce que évidemment aussi dans ces cas-là, on est à l'intérieur de la question de l'amour, des rapports d'amour, et dans mon cas spécifique, il s'agit en même temps d'une profonde blessure, c'est-à-dire l'histoire avec Jacques est l'histoire que je suis en train de vivre avec l'homme que j'aime, mais en même temps, étant donné qu'il y a toujours quelque chose d'absent qui nous persécute. Dans les cas spécifiques de Michela, il y a quelque chose d'absent qui la persécute. Il y en a plusieurs des choses qui me persécutent. Mais si on veut parler de ce qui a tendance à faire en sorte que je me rends compte qu'il y aura toujours quelque chose de profond que je n'aurai jamais, c'est la question de la maternité. Tout en sachant que Jacques est un homme qui a deux enfants, il a déjà eu des enfants dans un précédent mariage. J'ai dit président parce qu'on s'est marié. Hein. Non, je l'ai dit comme ça parce que l'histoire du mariage que j'essaie de raconter là encore brièvement, c'était quelque chose que je ne voulais pas. Je ne voulais pas me marier parce que j'ai considéré qu'il ne fallait pas mélanger les mariages avec l'amour. Et en fait, je me suis au bout d'un moment rendu compte qu'avec les mariages, donc rien n'a changé au niveau des sentiments, mais en même temps, quelque part, tout a changé parce que la joie que j'ai aujourd'hui quand je parle de Jacques en disant mon mari plutôt que simplement mon compagnon est quelque chose qui participe aussi à la complétude d'un rapport qui en même temps reste incomplet parce qu'il y a cette blessure de la question de la maternité. Et donc là, j'élabore encore comme d'un point de vue avec les jeux. Et donc, je raconte tout ce que je pense quand je croise dans la rue une femme enceinte, une femme avec un enfant, une femme qui s'arrête pour recueillir un jouet, pour le donner à son enfant, pour reprocher quelque chose à son, etc., etc. Tout ce que j'éprouve, parce que c'est tous les gestes que je ne pourrai jamais faire, parce que quoi qu'on en dise, même si, évidemment, j'ai un certain rapport avec les enfants de Jacques, ils ne sont pas mes enfants. Ils sont les enfants de Jacques, ils sont les enfants de l'ex-femme de Jacques. Ils ont déjà une mère, et quoi qu'on en dise, parce que là encore, il y a un politiquement correct. Aujourd'hui, tout va bien. Les rapports sont composés. Et la belle-mère, la mère, tout le monde s'entend bien, c'est pas compliqué. J'ai pas mes enfants, mais j'ai les enfants de l'autre. Rien ne change, non. C'est pas exactement comme ça. Tout change. Mais pas parce qu'ils ne sont pas les miens d'un point de vue biologique, évidemment, mais parce qu'ils ont leur mère. En revanche, la question du rapport entre les parents, les enfants, et après l'amour qu'on peut avoir vis-à-vis de l'autre, l'autre homme ou l'autre femme, est quelque chose pour moi de très important parce qu'il y a quelque chose qu'on retrouve et qu'on partage. C'est-à-dire, quand on parle d'amour, on parle d'une grammaire élémentaire, d'un sentiment qui est le même. Et j'essaie de m'expliquer. On dit souvent, d'ailleurs c'est l'objet d'un autre intermède, je pars des considérations qu'il fait un sociologue, qui par ailleurs j'aime beaucoup, qui est Bauman, qui décrit l'amour contemporain comme étant un amour liquide, en disant désormais on est dans l'utilisation de l'autre et donc on est dans les je te rencontre, je t'utilise, je te jette. Et donc on est dans des relations qui ont une durée, donc qui commence et qui termine, à la différence de jadis quand les rapports continuaient. Et j'essaie d'expliquer pour quelles raisons il a en partie raison et en partie il n'a pas raison. D'une part parce que la durée de certaines relations de jadis ne veut pas dire qu'on était confronté à des relations d'amour, ça durait pour d'autres raisons, et d'autre part parce qu'il y a des relations qui se terminent même si l'amour ne se termine pas, et toutes les relations qui se terminent parce qu'on dit l'amour c'est terminé, en fait ce sont selon moi des relations de non-amour. Parce qu'une des caractéristiques de l'amour que j'essaye là encore de défendre et de décrire et de raconter est la question de l'éternité de l'amour. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Parce que quelqu'un peut dire mais comment, il va déconstruire les mythes du prince charmant et puis il nous ressort cette bêtise de l'éternité de l'amour. La chose que je veux dire c'est que à partir du moment où l'amour apparaît, si l'amour apparaît, l'amour, il dure toujours, même si l'histoire s'interrompt. Et pour essayer d'expliquer ce que j'entends par là, je parle des rapports d'amour, de l'amour qu'il y a, s'il y en a, entre les parents et les enfants. Et je dis s'il y en a parce que je ne crois pas que parce qu'on est parent ou parce qu'on est enfant, il y a forcément un rapport d'amour. tous les parents qui ne sont pas capables d'accueillir les enfants tels qu'ils sont et qu'ils ont tendance à projeter sur eux une certaine image, des stéréotypes, des attentes, fort probablement ne sont pas en train de les aimer, parce que l'amour est tout d'abord une forme de reconnaissance. Je te reconnais, je t'accepte exactement comme tu es, sans te demander de changer, sans te demander de bouger, sans te demander de correspondre à quelque chose que je suis en train et que j'ai préparé avant même de pouvoir te rencontrer. Mais si il y a de l'amour, eh bien cet amour-là ne s'arrête certes pas si et quand il y a la disparition de l'objet d'amour. Alors parlons plutôt d'une disparition qui, entre guillemets, rentre dans l'ordre des choses, c'est-à-dire la disparition des parents quand on est enfant. Parce qu'en principe, bon, il y a aussi des cas, je pense d'ailleurs que c'est la souffrance vis-à-vis de laquelle nous sommes les plus impuissants, la perte des enfants, même si je parle de ça avec beaucoup de précautions, parce que, comme je vous ai dit, n'étant pas mère, comment j'ose, moi, pouvoir imaginer ce que pourrait être la perte d'un enfant. Mais donc, je parle de l'autre, quelque chose que nous expérimentons parce que nous sommes des enfants. Eh bien, quelqu'un qui aime ses parents, quelqu'un qui aime sa mère, j'ai, par exemple, moi qui aime ma mère, eh bien, ce n'est certes pas la disparition de l'objet d'amour, la mort d'un parent, de son père, de sa mère, de ma mère, qui va faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui change dans ce que j'éprouve, dans ce que je ressens vis-à-vis de ma mère. Quand ma mère ne sera pas là, ne sera plus là, il n'y aura rien d'en changer par rapport à ce que j'appelle l'amour que j'éprouve vis-à-vis de ma mère. Et je suis sûre que chacun de nous, chacun de vous, si a eu cette expérience, comprend ce que je suis en train de dire. La disparition de l'objet d'amour ne change en rien la relation que j'ai. L'amour qu'on prouve pour sa mère ou pour son père ne change pas si et quand la mère disparaît, la mère meurt. Et la même chose vaut dans les cas, évidemment, des maladies. Une maman qui a l'Alzheimer et qui ne reconnaît plus sa fille, ça transforme les rapports en quelque chose d'autre par rapport au rapport qu'il y avait avant. Mais ce qui, évidemment, est le cas à chaque fois qu'en grandissant, nous changeons les rapports. Mais en même temps, l'amour en tant que tel, lui, il ne change pas. Et de ce point de vue, c'est vrai que je me permets de critiquer, encore faudrait-il admettre la possibilité de les faire, mais la position de Pascal, quand Pascal dit que finalement on n'aime pas une personne, mais on aime systématiquement un ensemble de qualités. Mais si j'aime quelqu'un, non pas parce que je l'aime, mais parce que j'aime les propriétés qu'il a, qu'est-ce que ça pourrait faire en sorte que les sentiments continuent à partir du moment où il y a une disparition des propriétés? Si quelqu'un m'aime parce que je suis belle ou intelligente, et il y a un accident qui fait que je ne suis plus ni belle ni intelligente, est-ce que pour autant l'amour disparaît? S'il disparaît, il signifie qu'il ne s'agit pas d'amour. Parce que l'amour est là même si l'objet d'amour disparaît, change, s'abîme. Parce que l'objet d'amour, à l'intérieur d'une relation d'amour, et ce aussi qu'on a la capacité, est un objet qu'on a la capacité, on devrait pouvoir avoir la capacité d'introjecter. C'est-à-dire, c'est cet objet-là que je peux, peu à peu, intégrer à l'intérieur de moi et avoir avec moi, même si l'objet n'est plus présent à moi. Ce qui d'ailleurs permet aussi de ne pas être tout le temps avec l'objet d'amour et, en dépit de cette absence physique, pouvoir savoir qu'il y a une présence, parce que l'objet est en partie introjecté. Introjection, évidemment, qui aboutit à partir du moment où l'objet disparaît. Alors, mais si cela est vrai dans les cas des rapports entre les parents et les enfants, comment ça pourrait ne pas être vrai? C'est les raisonnements que j'ai faits, outre que l'expérience que j'ai, je vais vous expliquer pour quelle raison la question de l'expérience, comment ça pourrait ne pas être vrai dans les cas où l'objet d'amour, il n'est pas reçu, je ne choisis pas mes parents, exactement comme je ne choisis pas en principe mes enfants, mais à l'intérieur d'un rapport où l'objet d'amour est choisi, même si les choix dans l'objet d'amour, il faut toujours les mettre entre guillemets, non seulement parce qu'il y a toujours une partie des, comment dire, une partie des répétitions à l'intérieur des rencontres amoureuses, mais aussi parce qu'il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas, évidemment. Je croise quelqu'un et je me rends compte avec le temps qui passe que ça devient l'objet de mon amour, donc je l'ai choisi, même si les choix, il ne s'agit pas du tout d'un choix rationnel. Mais donc, s'il y a choix, comment pourrait se faire que les sentiments qui naissent à l'intérieur d'un cadre où il y a du choix puissent être moins forts ou moins durable qu'un rapport qu'on ne choisit pas, mais qui... Enfin, les rapports, on les choisit toujours, pardon. Mais avec des objets que, du coup, on ne choisit pas, mais qu'on accueille, et il y a quelque chose qui s'est créé au fur et à mesure que le temps passe. Donc, il y a, selon moi, quelque chose qui fait que, d'ailleurs, il y a des différences, par exemple, entre la simple passion, et quand j'ai dit simple passion, je ne vais pas dire que la passion soit quelque chose de simple, parce qu'il n'y a rien de simple même dans une passion, mais quand j'ai dit simple passion et amour, ça veut dire que la passion peut terminer, là où, en fait, l'amour est quelque chose qui vient toujours après. Mais ce n'est pas un après temporel, hein, ce dont je parle. Je ne dis pas, il y a la passion et puis hop, la passion termine et on découvre que c'est l'amour et donc du coup c'est une sorte d'affection. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Quand je dis après, c'est une sorte d'après ontologique, c'est-à-dire un après, après les rires, après les larmes, après la nuit. C'est tout ce qu'il y a qui reste, il y a vraiment la notion du reste, ce qui reste dans un rapport et qui nous permet de comprendre que ce n'est que avec cette personne que nous avons la liberté d'être nous-mêmes. Ce n'est que avec cette personne que nous sommes reconnus exactement comme nous sommes. Évidemment, reconnus tels que nous sommes ne veut pas dire que l'autre nous connaisse, parce que personne ne connaît l'autre exactement comme personne ne se connaît, pas jusqu'au bout. Mais il y a une acceptation, presque une tolérance, la volonté de ne pas faire en sorte que l'autre change, la volonté de faire que l'autre reste ce qu'il est, même si l'autre est plein de défauts. Alors là, je les raconte dans mon livre, parce que jusque-là, j'étais peut-être un peu théorique. Je suis désolée parce que les livres sont tout sauf théoriques. Mais je raconte, par exemple, revenons au personnage le plus important de ces livres. Mais Jacques, oui. Juste pour terminer sur deux petites choses. Donc, Jacques, qui donc, est l'homme que j'aime. Et l'amour pour Jacques, c'est un amour qui durera à jamais. Et ça, c'est quelque chose que je peux vous dire, même si je ne peux pas vous dire que l'histoire avec Jacques durera à jamais, parce que ça, je ne sais pas. Ça, ce n'est pas quelque chose qui dépend de moi, ce n'est pas quelque chose que je ne maîtrise pas, il y a toujours quelque chose qui peut arriver. Eh bien, tout en étant l'homme que j'aime, évidemment, c'est un homme que j'aurais envie parfois de prendre, quelqu'un a commencé déjà à rire en comprenant ce que j'étais en train de dire, de le jeter par la fenêtre, parce qu'il est insupportable. Alors là, par exemple, une des caractéristiques de Jacques, c'est qu'il est une personne d'un désordre plus unique et rare. Alors, je ne vous raconte pas comment je retrouve chez nous quand je rentre après avoir passé une partie de la semaine à Rome, où il n'y a absolument rien comme je souhaiterais. Alors, Jacques, ce n'est pas quelqu'un qui suscite ma confiance, loin de là, quand il s'agit de sortir, de fermer la lumière, de fermer les gaz, de ne pas oublier les clés, d'acheter ce que je lui ai laissé comme une liste. Alors, tu vas faire les courses et tu achètes. Voilà. Tout ça, zéro. Mais en même temps, et donc j'aurais parfois, je m'énerve, enfin on se dispute parfois, surtout quand je rentre, je suis fatiguée et pas très tolérante. D'ailleurs, déjà, je ne suis pas quelqu'un de super tolérante à la base, donc imaginez-vous avec la fatigue qui se rajoute. Mais tout ça, c'est du détail. Hein. Parce qu'en fait, moi, je ne sais pas vous dire pourquoi, mais la certitude que j'ai que c'est Jacques la seule personne qui sera toujours là, quoi qu'il arrive. Ça, c'est une certitude qui fait que cette histoire-là va au-delà de tous les défauts que j'ai. Alors oui, je suis folle et capricieuse. Jacques, il le sait très bien. Mais Jacques, c'est aussi la seule personne au monde. Oui, disons, ma mère aussi, peut-être. La seule personne au monde qui sait que... Je ne suis pas vraiment fâchée quand je parais fâchée. Je ne suis pas vraiment gentille quand je parais gentille. Je ne suis pas vraiment triste quand je parais triste. Je ne suis pas vraiment heureuse quand je parais heureuse. C'est-à-dire, il est le seul qui sait, même s'il ne sait pas tout, et il y a parfois des moments où, évidemment... Mais c'est le seul qui est capable de savoir qui je suis, même s'il ne sait pas exactement ce que je suis, exactement comme je ne sais pas ce que je suis moi et je ne sais pas ce que lui il est. Mais quelque part, je sais que lui il est autre chose par rapport au désordre, autre chose par rapport au gaz qui n'a pas été fermé, autre chose par rapport aux courses qui n'ont pas été faites, etc. Bon, ce sont des détails évidemment. Mais tout ça pour dire qu'il y a là cette reconnaissance réciproque. Et folle et capricieuse comme je suis, je sais aussi que je suis heureuse parce que libre de l'être, depuis que je sais que c'est l'homme que j'aime.
J'aurais peut-être une petite question là-dessus, parce que c'est intéressant d'aborder du coup la question de Jacques et en même temps de dire, finalement, il y a quelque chose d'éternel dans l'amour, d'une certaine manière. Mais en même temps, si on tient l'idée que donc Jacques, vous l'aimerez toujours, comment du coup on arrive à le faire coexister avec le fait que l'amour tient dans des petits riens, qu'il tient du coup aussi dans des gestes, donc dans une narrativité de la vie ordinaire? Comment on fait coexister ça, le fait que l'amour est éternel et que de l'autre côté, il tient quand même dans une sorte de vie ordinaire, de vie quotidienne, où il y a des petits gestes qui sont plus que des petits gestes? Comment on fait coexister les deux? Ça m'intrigue.
Oui, non, mais en plus, c'est une question pratiquement à laquelle je ne suis pas sûre du tout de pouvoir répondre. Alors là, vous voyez, la structure de la rationalité des philosophes, elle dit, mais là, tu es en train de dire, et c'est vrai.
Non, c'est une vraie question,
mais je suis d'accord. C'est une vraie question. Et quand je dis que je ne suis pas sûre de savoir répondre, c'est parce que j'aurais tendance à dire que les deux choses sont vraies en même temps. C'est-à-dire, on est dans une sorte de contradiction qui, en même temps, a tendance à s'éteindre parce que c'est une caractéristique de la vie dans laquelle la cohérence, il serait beau si la vie pouvait être cohérente comme un théorème des mathématiques. D'ailleurs, c'est ce que je me suis, pendant longtemps, j'ai pensé pouvoir faire en sorte que tout dans la vie puisse être rangé à l'intérieur d'un schéma, avant de me rendre compte que plus j'essayais de trouver la cohérence, plus finalement je me mettais dans une position d'échec et mat. Et ce n'est qu'à partir du moment où j'ai ouvert la voie au chaos et au désordre que finalement les choses ont pu commencer à trouver leur façon à peu près de marcher. Mais du coup, comment puis-je dire que les deux choses sont vraies à la fois? Parce que vous avez parfaitement raison. Enfin, j'essaie de les dire. Quelque part, c'est le quotidien, c'est le jour après jour, ce sont les petits gestes.
Les surprises.
C'est le fait de pouvoir se surprendre à chaque fois, de redécouvrir que ce n'est qu'avec lui qu'il y a cette capacité de se sentir unique, d'être unique et de savoir que l'autre aussi est unique. Alors, quand je dis que l'amour dure toujours, c'est que pour se mettre en place et pour apparaître, on a besoin de tout ça. Mais si, à un certain moment, parce que malheureusement, la vie, elle est faite de deuil, elle est faite de pertes. Moi, je pense que s'il devait y avoir une des caractéristiques principales de la vie, c'est l'effet de perdre. D'ailleurs, je crois qu'il y a, je ne m'en souviens plus là maintenant de la phrase exacte, mais il y a un passage où j'ai dit que la perte est presque intrinsèque aussi à la question de l'amour. Finalement, dans sa vie, on ne fait que perdre. Donc, étant donné que la perte fait partie de la vie, il faut se poser la question de savoir, mais si je le perds ou si je la perds, est-ce que pour autant je perds l'amour? Alors, si l'amour est apparu, il a été là parce que avec cette personne j'ai pu traverser les vides, parce que avec cette personne j'ai pu découvrir la reconnaissance de ce que je suis et que parfois j'étais même pas capable de me donner toute seule, et bien ces éléments là m'accompagnent même quand ou même si cet objet là disparaît. Donc quand j'ai dit l'amour dure toujours, c'est aussi une question de réponse à qui me dit mais j'ai aimé et je l'ai perdu, comment survivre aussi à la perte. en sachant que survivre à la perte signifie se rattacher effectivement à tout ce qu'on a vécu et partagé, tout l'ensemble des petits rayons qui font que nous sommes ce que nous sommes, en dépit du fait que nous venons de perdre l'objet de notre amour. Et ça, c'est une question que je me suis, que j'avais commencé à me poser dans Légère comme un papillon, où il y a une grosse perte. Bon, il y en a plusieurs des pertes, mais quand je dis la grosse perte, c'est la perte d'Alessandro. Alessandro a été, est, il faut que je mette, est, un homme que j'ai aimé, j'aime. Histoire qui s'est terminée de façon tragique, pour ceux qui ont lu, enfin, pas complètement tragique parce que j'y suis encore là, mais à partir de quand Alessandro m'a quitté, et il m'a quitté pour plusieurs raisons, il m'a quitté aussi à un moment de ma vie où j'étais absolument pas capable de me tenir toute seule. C'était une époque où j'étais complètement empêtrée à l'intérieur de mon propre symptôme. Bon, bref, l'effet est que Alessandro s'en va pour ensuite revenir, mais bon, ça je raconte pas tout. S'en va et j'ai le sentiment d'avoir tout perdu, pardon. Au point que, c'est-à-dire non pas uniquement la perte de l'autre, la perte de l'objet, mais la perte de moi-même. J'ai fait une tentative de suicide. Alessandro, il m'a sauvé la vie parce que c'est lui qui s'est rendu compte en se réveillant que je venais de faire ce que j'avais fait. Et après, ops, bon, l'histoire est repartie, je suis arrivée en France, etc. Il se trouve que quelques années plus tard, Alessandro, il m'a recherché en disant « J'ai jamais arrêté de t'aimer. » Et je sais qu'il m'aime encore, exactement comme je l'aime. Mais je l'aime dans le sens où la place qu'Alessandro a occupée est une place unique. Et les sentiments que j'ai éprouvés et que j'ai construits avec lui, c'est quelque chose qui ne me quittera jamais. Ce qui n'a pas empêché par la suite de croiser les regards d'un homme avec qui je me sens parfaitement reconnue et que j'aime, et qui est Jacques. Et la place de Jacques, c'est une toute autre place. Mais probablement, quand j'ai rencontré Jacques, je n'aurais pas été la femme que j'étais si je n'avais pas, avant, croisé dans mon chemin la présence d'Alessandro, même si c'était une histoire, arrivée à un moment de ma vie où j'ai pensé que perdre l'autre, c'était perdre tout, avant de me rendre compte que quand on perd l'autre, on perd tout sauf soi-même, sauf ce qui est devenu, sauf sa propre valeur, sauf la capacité de se tenir, en dépit du fait qu'il y ait une plaie qui est en train de nous traverser et qui restera à jamais là, parce que ça fait partie, ça aussi, de la vie. Donc, tout ça, pour revenir du coup à la question, je pense que les deux choses, tout en étant dans une très forte contradiction, peuvent se tenir, d'ailleurs doivent quelque part se tenir, parce qu'il y a quelque chose aussi, quand on parle de l'amour exactement comme quand on parle de la vie, qui relève aussi du mystère. Quelque part, j'ai essayé de vous vendre quelque chose d'invendable d'un point de vue logique, parce que j'ai essayé de vous vendre, il n'y a pas d'amour sans geste quotidien, sans partage, et en même temps, l'amour est là même quand le partage n'est plus là. Donc c'est vraiment A et non A. Si j'étais en train de corriger une copie et j'avais posé une question, probablement je marquerais en disant bon, faute des raisonnements. Mais la question, c'est que justement, quand on parle de l'amour et de la vie, il y a tout ça qui va ensemble. Exactement comme, pour reprendre encore une fois Lacan, la vérité du sujet, c'est pas là où les sujets pensent, enfin, c'est pas les cogito de Descartes, je pense. Donc je suis, mais comme vous savez, Lacan nous explique que je suis là où je ne pense pas et je pense là où je ne suis pas. C'est-à-dire quelque chose qui paraît encore une fois être contradictoire, mais qui sert à montrer qu'il y a une vérité du sujet qui est en train d'émerger, non pas à partir du moment où je suis dans la cohérence propositionnelle et logique, mais à partir du moment où je lâche prise et je permets aussi à la parole de bafouiller pour dire ce que la logique aurait tendance parfois à laisser et à comprendre à l'intérieur d'un schéma rigide.
Merci beaucoup, Michela Marzano.